L'épidémie de coronavirus que nous connaissons actuellement bouleverse nos relations habituelles. Certains d'entre nous ne peuvent plus travailler ou sont en chômage partiel, en chômage technique. D'autres travaillent à distance, télétravail. D'autres encore travaillent normalement, mais une partie des collègues, par exemple, est en arrêt de travail. Il y a aussi ceux parmi nous qui s'occupent des enfants toute la journée parce qu'ils ne vont plus à l'école en ce moment et certains parents tentent de faire l'école à la maison ou de suivre le programme diffusé par l'établissement scolaire. Mais ce n'est pas forcément évident pour les enfants et les jeunes de travailler dans ce contexte. Et les relations entre parents et enfants ne sont pas évidentes. Parce que nous n'avons pas l'habitude de passer autant de temps ensemble. De même, au niveau du couple, la vie de couple est affectée par la situation sanitaire actuelle. Certains couples se renforcent pendant cette période, mais d'autres, au contraire, se divisent parce que la situation fait que nous passons effectivement plus de temps ensemble et nous n'avons pas l'habitude de devoir supporter l'autre à ce point. En Chine, par exemple, le confinement a entraîné une hausse des demandes de divorce. Nos relations de couple, de famille et nos relations socio-professionnelles sont donc mises à l'épreuve pendant cette période de confinement. Le texte de la Bible que nous allons lire aujourd'hui nous parle justement de ces différentes relations. Nous reprenons notre série de prédications sur la lettre de Paul aux Colossiens et nous allons prendre la lecture au chapitre 3 et au verset 18. Je vous invite à écouter ce que Dieu a à nous dire au sujet de nos relations pour que leur mise à l'épreuve actuelle soit une source de croissance plutôt que de division. Je vous invite donc à lire Colossiens chapitre 3 à partir du verset 18. Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'amertume contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, car vous savez, pardon, que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Maître, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. L'apôtre Paul aborde en premier lieu les relations familiales. Il s'adresse aux femmes, au verset 18, puis aux maris, verset 19, aux enfants, au verset 20. Et de nouveau, Paul parle aux maris, mais dans leur rôle de père de famille, au verset 21. À l'époque, les femmes et les enfants se situaient tout en bas de l'échelle sociale, au même rang que les esclaves. Ils étaient donc peu considérés. L'homme, à l'époque, celui qu'on appelait le pater familias, hein, avait tout pouvoir sur les autres membres de la famille, y compris les esclaves qui vivaient dans la maisonnée. Notons que Paul ne cautionne pas ce modèle du pater familias. Il s'adresse par exemple en premier aux femmes. Alors certes, il leur demande de se soumettre à leur mari, nous allons y revenir. Mais le simple fait que Paul s'adresse personnellement aux femmes chrétiennes et non seulement aux chefs de famille masculins, c'est une grande nouveauté. De même, Paul s'adresse personnellement aux enfants, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Paul considère donc les femmes et les enfants comme des personnes à part entière, ce qui peut nous sembler évident aujourd'hui, mais qui n'allait pas du tout de soi au premier siècle. Sans le dire explicitement, Paul met donc en question le modèle familial de son époque. Il n'appelle pas pour autant à la révolution sociale ou familiale. Son but est d'aider les familles chrétiennes de Colosse à vivre dans leur époque un modèle de famille transformé par l'Évangile. En Christ, nos relations de couple sont transformées. C'est le premier point de cette prédication. En Christ, nos relations de couple et de famille sont transformées. Alors, quelles sont les bases, les nouvelles bases de cette vie familiale et conjugale chrétienne? Eh bien, ce sont en fait les relations que Dieu a voulu pour l'être humain dès le commencement. D'abord, les hommes chrétiens, sont appelés à diriger le foyer, effectivement, mais en aimant leurs épouses et en encourageant leurs enfants. L'homme chrétien n'est donc en aucun cas un tyran tout-puissant. Il vit ses responsabilités familiales et conjugales devant Dieu, à qui il rend compte de ses responsabilités. En ces temps de confinement, Dieu donne aux hommes chrétiens la possibilité de manifester de l'amour à leurs épouses et d'encourager leurs enfants. Alors, pour ceux d'entre nous qui sont à la maison en ce moment, voilà une occasion de progresser en tant qu'époux et en tant que chef de famille. Nous ne pouvons pas forcément sortir de la maison, ou presque, pour fuir la vie de couple ou l'éducation de nos enfants. Dieu nous fait donc la grâce d'apprendre à supporter davantage nos proches, qui n'ont peut-être d'ailleurs jamais été aussi proches qu'en ce moment. Et comment? Eh bien, en les aimant et en les encourageant. Dieu nous donne la possibilité de prouver à nos épouses, à nos enfants, que nous ne sommes pas des tyrans égoïstes, mais des hommes transformés par l'Esprit de Dieu. Contrairement à ce que notre société donne comme image des hommes aujourd'hui. Alors encore faut-il que nous nous laissions effectivement transformer par Dieu dans notre masculinité, dans l'exercice de notre masculinité. Paul ajoute que les hommes, qui sont aussi des pères, devraient être une source d'encouragement pour leurs enfants. Qu'il est facile d'énerver, d'exaspérer nos enfants. Plus difficile est la tâche qui consiste à les encourager, à être patient avec eux, à leur apprendre à apprendre de leurs erreurs, de leur dire tu feras mieux la prochaine fois, plutôt que tu n'es un bon à rien, tu n'es qu'un bon à rien ou une bonne à rien. Ce qui ne fait pas avancer dans la vie. Alors, les recommandations de Paul aux pères chrétiens de son époque s'appliquent tout autant aux mamans aujourd'hui qui partagent la responsabilité de l'éducation des enfants ou qui se retrouvent d'ailleurs parfois seules à élever leurs enfants. Mesdames, soyez une source d'encouragement pour vos enfants. Deuxièmement, Paul parle aux femmes chrétiennes, et les femmes chrétiennes sont également appelées à repenser leur place dans l'ordre familial voulu par Dieu. Comment? En se soumettant à leur mari. Alors, l'idée d'une soumission féminine est devenue insupportable dans notre société aujourd'hui. Elle est vécue comme une position de victime face à une masculinité menaçante. Cette réaction est compréhensible lorsque l'homme abuse effectivement de son autorité, ce qui est le cas dans de trop nombreux couples aujourd'hui et dans la société de manière plus large. Et cet abus d'autorité masculin n'a pas sa place, ne devrait pas avoir de place dans le couple ni dans la société telle que Dieu les conçoit. Ceci dit, cette réaction féminine légitime, poussée à l'extrême dans certains mouvements féministes de nos jours, en vient parfois à rejeter toute forme de soumission à une autorité masculine. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans le texte que Paul nous rappelle ici. Paul n'appelle pas les femmes chrétiennes à une soumission subie et écrasante, mais au contraire à une soumission volontaire. Cette soumission prend la forme d'un soutien de son conjoint, d'un vis-à-vis, pas d'un rôle de domestique. Se soumettre à l'autre, ce n'est pas accepter tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait. C'est soutenir un projet de vie commun pour le couple, pour les enfants. C'est dialoguer tout en aidant son mari à prendre ses responsabilités de chef de famille. Responsabilités que nous, les hommes, nous avons malheureusement parfois tendance à fuir lâchement. Paul ne fait ici que reprendre l'enseignement de la Genèse. Je vous invite à relire Genèse chapitre 2, les versets 18 à 25, qui seront certainement une lecture qui sera certainement une lecture profitable pendant ce temps de confinement. Troisième catégorie de personnes dans la famille à qui l'apôtre Paul s'adresse, les enfants. Les enfants sont appelés à obéir à leurs parents, donc non seulement à leur père, mais aussi à leur mère. De cette manière, Paul donne ou redonne de la valeur à l'autorité maternelle dans le foyer. De nouveau, ici, Paul ne fait que rappeler des textes de l'Ancien Testament, en particulier les 10 commandements, Exode chapitre 20, Honore ton père et ta mère. Il y a peut-être des enfants qui regardent cette vidéo. Eh bien, le texte que nous lisons aujourd'hui s'adresse aussi à vous, les enfants, et aussi les jeunes, les adolescents. Si vous voulez faire plaisir à Dieu, eh bien, obéissez à vos parents. Écoutez ce qu'ils vous disent, pas d'abord pour leur faire plaisir à eux, mais pour faire plaisir à Dieu. Vous n'avez pas de parents parfaits, c'est vrai. Aucun père, aucune mère n'est parfait. Les parents ne mettent pas toujours en pratique ce qu'ils vous demandent de respecter. C'est vrai aussi. Mais en vous soumettant à leur autorité, vous les aiderez aussi à devenir de meilleurs parents. Vous ne devez pas obéir une fois de temps en temps seulement ou quand vous en avez envie, mais en toute chose, vous demande l'apôtre Paul. C'est-à-dire à chaque fois que votre père ou votre mère vous demande d'obéir, que ce soit pour aller vous laver, vous coucher, faire vos devoirs, venir à table en famille, aller au culte, ne pas vous disputer avec vos frères et sœurs, etc. Pour aller plus loin, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, adolescent, on pourra relire dans cette semaine, seul ou en famille peut-être, le texte parallèle que l'on trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 22 et jusqu'au chapitre 6, verset 4. Alors, les propos de l'apôtre Paul au sujet des relations chrétiennes dans la famille sont tout aussi pertinentes pour les célibataires. Vous n'êtes peut-être, vous qui écoutez cette vidéo, ni en couple, ni parents, et vous avez passé l'âge d'obéir à vos parents. Eh bien, ces paroles sont aussi pour vous. Vous êtes appelés, en tant qu'homme chrétien ou en tant que femme chrétienne, à laisser Christ transformer votre masculinité ou votre féminité, selon les critères qui plaisent à Dieu et non selon le modèle de notre société. Si vous êtes un homme, vous êtes aussi appelé à assumer vos responsabilités masculines avec amour dans cette société, dans un esprit de service à l'égard de vos prochains, à vous comporter non pas en macho, mais en homme digne de confiance, quelqu'un sur qui l'on peut compter, qui va contribuer à la construction de relations hommes-femmes plus justes dans notre société. Si vous êtes une femme, vous êtes également appelée à reconsidérer votre féminité au regard des principes bibliques que l'apôtre Paul rappelle ici. Mesdames, notre société ne vous encourage pas à considérer les hommes de manière positive, mais à en faire comme un objet de consommation. C'est exactement ce que signifie le logo d'adopteunmec.com. Vous avez sans doute vu ce logo où l'on voit une femme faire tomber un homme dans son caddie. On est bien loin des paroles de Paul ici qui vous demande, mesdames, de vous soumettre à l'autorité d'un homme qui vous apprécie, qui vous respecte, qui vous aime. Et c'est pourtant à cela que vous êtes appelé, que vous êtes rappelé aujourd'hui, à redonner de la valeur à l'autorité masculine voulue par Dieu. En vivant votre féminité et votre féminisme comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Verset 18. Ne subissez pas cette soumission. Soyez volontaire dans cette soumission. Et ne transformez pas cette soumission volontaire, cette volonté justement, en désir de vengeance vis-à-vis des hommes, quelles que soient vos expériences passées avec les hommes ou avec votre propre père. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs tyranniques que les hommes commettent parfois. Au contraire, apprenez de leurs mauvais exemples pour en tirer du bon et produire du bon. Dans la deuxième partie de notre texte, l'apôtre Paul aborde les relations maître-esclave. À l'époque, les esclaves étaient une population très nombreuse. On estime à environ 50% la population d'esclaves dans la ville de Rome. Tout le système économique romain reposait sur l'esclavage. Les maîtres, un peu comme le pater familias, c'était parfois d'ailleurs la même personne, avaient droit de vie et de mort sur les esclaves qui habitaient dans leur maisonnée et qui constituaient en quelque sorte leur propriété, je mets des guillemets. Même les enfants des esclaves qui étaient nés dans la maisonnée du chef de famille appartenaient au chef de famille, au maître, pas à l'esclave qui avait eu ses enfants, aux esclaves qui avaient eu ses enfants. Les esclaves n'avaient aucun droit ni aucun héritage. Dans les documents du premier siècle qu'on a retrouvés, on s'adressait toujours aux maîtres, jamais aux esclaves qui faisaient partie en quelque sorte des meubles. Eh bien, écoutez comment l'apôtre Paul parle ici. D'abord, l'apôtre Paul s'adresse personnellement aux esclaves, de la même manière qu'il s'était adressé personnellement aux femmes et aux enfants. Cela ne se faisait jamais à l'époque. Et Paul s'adresse aux esclaves avant de parler aux maîtres, impensable pour l'époque. En plus, troisièmement, Paul adresse aux esclaves des paroles plus longues, il y a trois versets, rien que pour eux, plus que pour toutes les autres catégories sociales dans ce passage. Alors, c'est sans doute à cause de la nouveauté de la liberté de conscience chrétienne de ces esclaves. Plus de liberté égale plus de recommandations pour gérer cette liberté nouvelle. Et puisque ce statut social d'esclave était très répandu dans l'Empire romain de l'époque, il y avait à coup sûr des esclaves parmi les chrétiens à Colosse. Regardez. Paul leur dit encore, quatrièmement, que leur maître terrestre n'est pas un maître absolu, mais qu'en exerçant bien leur service auprès de lui, ils servent le Christ. Paul utilise d'ailleurs ici la même formulation que pour les enfants. Obéissez en tout point à vos maîtres. Et au verset 20, il disait aux enfants, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Formule similaire. Cinquièmement, à ceux qui n'avaient aucun droit et aucun héritage, Paul dit qu'en Christ, ils recevront le même héritage que tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. Verset 24. Paul ajoute un avertissement. Ce droit nouveau n'est pas un passe-droit, mais une grâce, un cadeau. Les esclaves qui agissent mal, donc qui font un mauvais usage de leur liberté chrétienne, subiront les conséquences de leur méchanceté. Leur maître céleste est un bon maître, mais il est aussi un maître juste, et il ne fait pas de favoritisme. Dans l'église de Colosse, il y avait sans doute aussi des maîtres, puisque l'apôtre Paul s'adresse à eux à la fin de notre passage, des maîtres, donc des gens qui avaient des esclaves à leur service. Eh bien, à ces chrétiens ayant un statut social de maître, Paul rappelle qu'ils ont eux aussi un maître au-dessus d'eux. À l'époque, on ne disait jamais cela à un maître. Paul ne remet pas pour autant en question les droits des maîtres, mais il leur rappelle qu'ils ont aussi des devoirs. Et il replace leurs responsabilités dans le cadre de la justice sociale de Dieu. Comme pour les versets précédents sur la famille, les propos de Paul adressés aux esclaves, puis aux maîtres, n'appellent pas à se révolter contre l'ordre social établi à l'époque, mais transforment radicalement la manière de les vivre en tant que chrétiens. Alors aujourd'hui, ce n'est plus la relation maître-esclave qui constitue le modèle socio-économique de notre société française. C'est plutôt la relation patron-employé. Alors, il y a des gens qui sont leurs propres patrons, les auto-entrepreneurs par exemple. Mais dans la plupart des métiers, on a soit un supérieur hiérarchique, soit des employés qui travaillent sous notre responsabilité, soit les deux. Et dans l'église, on retrouve aussi toutes les catégories socio-professionnelles, souvent des employés, parfois des patrons. Ces paroles de Paul sont donc tout à fait d'actualité et nous invitent à reconsidérer nos relations professionnelles à la lumière de la parole de Dieu. Si nous sommes employés, dans une activité professionnelle par exemple, eh bien Dieu nous invite à obéir à notre hiérarchie. Là encore, le mot obéir pourrait mal passer à nos oreilles occidentales aujourd'hui. Et de nouveau, Paul évoque une forme de soumission, cette fois-ci dans le travail, et ce n'est pas forcément facile à entendre. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'obéir aveuglément à tout ce que dit notre employeur. Et l'activité syndicale chère à notre société française a aussi sa place pour défendre les droits des travailleurs. Mais il y a de la part de l'employé chrétien une saine obéissance qui consiste par exemple à respecter sa hiérarchie, à respecter les termes du contrat qui nous lie ensemble, à respecter les horaires de travail et le casier des charges qui sont liés à notre fonction professionnelle, etc. L'employé chrétien est appelé à exercer sa fonction professionnelle avec la liberté de conscience que donne le Christ, et non dans la peur du gendarme. Nous devons bien faire notre travail, même quand notre employeur est absent. On connaît le dicton « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Eh bien, ce n'est pas la mentalité qui devrait nous animer en tant qu'employés chrétiens. Nous ne devons pas danser quand le chef n'est pas là, mais travailler tout aussi consciencieusement que lorsqu'il est présent dans le service. C'est exactement ce que dit l'apôtre ici aux esclaves. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, dans le respect, la crainte du Seigneur. Pourquoi est-ce que nous devons travailler aussi bien lorsque notre patron est là que lorsqu'il n'est pas là? Eh bien, parce que notre patron n'est pas notre seul chef. Notre patron ultime, c'est Dieu. Et c'est pour lui que nous travaillons en définitive. Ce n'est pas d'abord pour faire plaisir à notre patron terrestre, mais pour plaire à notre patron qui est aussi notre Père céleste, que nous choisissons en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, d'accomplir sérieusement, fidèlement et de tout notre cœur notre activité professionnelle. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors attention, Dieu n'aime pas plus les ouvriers que les patrons. Dieu ne fait pas de favoritisme, dit Paul au verset 25. Si nous agissons mal, par exemple, si nous utilisons notre temps de travail professionnel pour nos activités personnelles, ou si, comme tout le monde, entre guillemets, nous nous servons du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, eh bien, nous recevrons le salaire que méritent nos mauvaises actions. Verset 25. Et notre étiquette chrétienne sera finalement un contre-témoignage pour nos collègues et pour notre employeur. Qu'il n'en soit pas ainsi dans notre travail. Peut-être nous passons actuellement par une période de chômage, chômage technique ou chômage tout court. Eh bien, dans cette période, Dieu nous donne peut-être l'occasion de réfléchir sur notre manière de considérer les relations professionnelles, afin que nous vivions notre prochain poste ou que nous reprenions notre poste habituel avec une vision plus juste des relations employeur-employé. Enfin, les paroles de Paul s'adressent aux patrons chrétiens, à qui il rappelle qu'ils ne sont pas des maîtres absolus. Ils ont eux aussi un maître au-dessus d'eux. Ils ont donc des comptes à rendre. Ils sont appelés à être des patrons justes avec leurs employés. Le pouvoir et l'humilité ne sont pas incompatibles. Mais ils demandent de la sagesse et du courage. Au contraire, un employeur chrétien qui assume ses responsabilités patronales avec justice et équité, au contraire de ce que l'on peut voir parfois, hein, et à l'image d'un Dieu qui ne fait pas de favoritisme, eh ben, ce patron-là démontrera que Dieu transforme son caractère en mieux et que cela a des répercussions dans sa vie professionnelle. Voilà, ce passage de la lettre aux Colossiens nous invite donc à relever un grand défi qui consiste à reconsidérer nos relations et activités familiales et professionnelles comme un service pour le Seigneur, et non seulement pour rechercher l'approbation des autres. Alors, pour nous réengager dans cette démarche, méditons seuls et ensemble sur la récompense dont Paul parle ici, l'héritage qui nous attend en Christ. Verset 24, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Alors, puissions-nous être pendant cette semaine au service de Christ, notre maître, et que le Christ renouvelle et transforme nos relations familiales, sociales et professionnelles.